RFI.
Ce dimanche, c'est le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Comme chaque année, nos pensées vont à toutes nos consoeurs, tous nos confrères qui ont perdu la vie en exerçant leur métier dans le monde. Elles vont aussi, bien entendu, à leurs proches. Une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui ont souffert ou qui souffrent en ce moment parce qu'elles, ils ont exercé leur droit de s'exprimer, leur droit à penser. Cette année, la fête du journalisme arrive à la veille d'un jour important en France. Ce lundi 4 mai, des centaines d'organisations syndicales, de défense des droits de l'homme, des milliers de citoyens se mobilisent pour dire non au projet de loi renseignement qui doit être voté par l'Assemblée nationale française le lendemain, le 5 mai. Nous avons consacré une émission à ce sujet. Je vous invite grandement à aller l'écouter sur Internet pour comprendre les points de vue de celles et ceux qui s'opposent à ce texte, de même que les réponses de celles et ceux qui le défendent. Si vous êtes parisien, sachez que Reporters sans frontières vous invite à un concert pour la liberté, place de la République à Paris ce dimanche 3 mai. Sachez aussi que le Tank accueille une journée marathon le lundi 4 mai pour combattre le projet de loi renseignement et inciter les députés à ne pas voter ce texte. Son nom, 24 heures avant 1984. Plus d'infos sur Internet.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous,
Notrax, c'est le nom d'un dispositif multimédia mis en ligne par Arte, l'Office National du Film Canadien et Upian notamment. Il s'agit d'une série de 7 films courts qui ont pour ambition de nous expliquer comment et pourquoi notre vie numérique est traquée par toutes sortes d'outils, d'acteurs à des fins commerciales. Nous serons avec 3 des créateurs de Do Not Track dans la deuxième partie de l'émission. Tout de suite, nous parlons journalisme en Afrique avec Philippe Couve, le créateur de l'Atelier des médias. Il a lancé avec CFI et Code for Africa un vaste projet pour soutenir l'innovation média sur le continent africain.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Afrique, innovation, réinventer les médias, c'est le nom d'un programme lancé il y a quelques semaines par CFI et Code for Africa. Il s'agit dans un premier temps de faciliter l'innovation média sur le continent africain en organisant ce qu'on appelle des hackathons, des marathons du hack, du détournement ou de la bidouille. Le premier hackathon s'est tenu il y a quelques jours à Abidjan. Il était notamment coordonné par toi, Philippe Couve. Bonjour.
Bonjour Ziad.
Tu es à l'origine de ce projet Afrique Innovation Réinventer les médias. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
L'idée de ce projet Afrique Innovation, c'est de constater que sur le continent, comme partout ailleurs, mais sur le continent particulièrement, on voit quasiment sous nos yeux, au fil des jours, évoluer la situation et les modes de communication, d'accès à l'information qui sont en train de changer. On voit ces téléphones portables qui sont partout.
En particulier, les téléphones mobiles intelligents.
Alors, plus ou moins intelligents, les téléphones, mais en tout cas, ils sont partout et ils sont de plus en plus intelligents, effectivement. De plus en plus de monde a des téléphones Android, par exemple, qui permettent vraiment d'aller sur Internet, de faire pas mal de choses. Mais il y a aussi des téléphones simples qui permettent d'envoyer des SMS et puis de téléphoner, tout simplement. En Afrique, comme ça a été le cas ici en Europe ou aux États-Unis, ce changement des usages, des moyens de communication, a un impact aussi sur la manière de s'informer. Et ça, il faut que les médias historiques, la presse écrite, la radio, la télévision, en prennent conscience et puis s'adaptent à cette nouvelle donne. Et on s'aperçoit que en Afrique, comme ça s'est passé ailleurs, les médias traditionnels ont un petit peu de mal. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va essayer de sensibiliser un petit peu tout le monde à cet enjeu. Alors, les médias traditionnels d'un côté, en organisant des conférences sur l'innovation pour eux, et puis de l'autre côté, on dit, on va essayer de s'appuyer sur la jeune génération, qu'il s'agisse de blogueurs, qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse de développeurs web ou de développeurs d'appli pour téléphone, en leur disant, vous avez des idées, vous connaissez les usages, vous connaissez les besoins, on va essayer de vous aider à inventer un petit peu les médias de demain, qui seront peut-être des applis, ça sera pas des chaînes de télé comme on connaît aujourd'hui, ça sera peut-être des dispositifs sur le web, ça sera pas des radios, il y aura peut-être des choses qui sont faites à base de SMS, mais on va essayer d'inventer tout ça avec vous. Alors effectivement, c'est un programme long, ambitieux qui commence en ce moment, qui va s'achever dans un peu plus d'un an, et il y aura toute une série d'étapes au fil de cette année qui va s'écouler.
Parmi ces étapes, il y a donc ce qui a eu lieu à Abidjan il y a quelques jours, ce qui va se dérouler bientôt à Dakar également et dans d'autres villes, on pourra les spécifier, ce qu'on appelle donc un hackathon.
Alors on appelle ça un peu moins un hackathon maintenant parce qu'on s'aperçoit que le mot fait peur à beaucoup de gens et qu'ils ont l'impression que c'est un truc très technique, très compliqué. Donc je pense qu'on va dire maintenant que c'est des marathons d'innovation dans les médias ou des marathons d'ingéniosité dans les médias, pourquoi pas, pour faire comprendre que c'est ouvert à tout le monde. Il s'agit pas d'être un grand spécialiste informatique ou je ne sais quoi. Il s'agit d'essayer de regarder, d'observer et de trouver des idées pour amener l'information à des endroits où elle ne va pas, pour amener l'information sur des formes différentes ou pour amener un autre type d'information qui n'existerait pas encore aujourd'hui.
Et concrètement, donc, durant ces marathons, ces hackathons, on va réunir un certain nombre de participants pendant un certain temps pour qu'ils inventent, qu'ils innovent ensemble, c'est ça ?
Alors, effectivement, le temps d'un week-end, d'un vendredi soir jusqu'au dimanche soir, on réunit des équipes, enfin des individus parfois, qui se rassemblent en équipe et qui, pendant ces 48 heures, vont essayer d'imaginer, de penser, éventuellement de commencer à concevoir des prototypes de ce service nouveau d'information auquel ils ont pensé. Ils sont assistés pour ça par des mentors locaux dans chacun des pays où on va se rendre, et puis des mentors internationaux, alors qui viennent les pousser dans leur retranchement, les inciter à aller plus loin dans leurs idées, etc., pour faire naître ces projets. Donc ça, c'est la première phase de ce grand programme avec donc le hackathon d'Abidjan qui a eu lieu il y a quelques jours. On sera à Dakar du 22 au 24 mai prochain, et puis ensuite à la fin du mois de juin à Douala au Cameroun, et puis à Antananarivo à Madagascar.
Et Tunis également,
c'est... Alors, dans un deuxième temps, et ça sera plus à l'automne, il y aura un rendez-vous à Tunis, à Alger et à Casablanca, et puis également toute une série de rendez-vous sous forme de hackathon ou ce qu'on appelle aussi, là c'est très technique, data bootcamp, c'est-à-dire comment travailler avec les données pour produire de l'information dans toute une partie de l'Afrique anglophone. Ça va concerner le Kenya, le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud.
On va revenir dans un instant sur le hackathon, appelons-le encore comme ça, qui s'est déroulé à Abidjan. Avant cela, je veux bien qu'on parle des autres étapes. Donc, les hackathons, c'est la première étape. Il y a d'autres étapes dans le dispositif.
Effectivement. Première étape, donc, c'est marathon d'innovation média au cours desquels on va essayer de mettre tout le monde et sensibiliser à ces problématiques et mettre tout le monde à travailler un petit peu ensemble. Ensuite, on va organiser, à partir du début du mois de juillet, pendant une durée de 3 mois, un dispositif de formation à distance qu'on appelle un MOOC, avec 2 cursus de formation sur 12 semaines chacun. Premier cursus, c'est destiné à des journalistes, un cursus journaliste web. Alors pourront y participer des blogueurs, des gens qui ont envie d'écrire, des gens qui sont déjà journalistes et qui veulent se spécialiser.
Donc l'idée, c'est que c'est l'éditorial qui est visé là.
Absolument. Et un deuxième cursus, qui lui est un cursus développeur web et mobile. Et là, ce sont des gens plus orientés sur la technique, pour savoir monter des sites web, pour savoir créer des applications, pour savoir utiliser des services SMS dans le cadre d'applications. Donc ça, c'est la deuxième phase, une formation à distance gratuite qui sera délivrée pendant 12 semaines.
Accessible à tout le monde ?
Accessible à tout le monde, qui sera délivrée pendant 12 semaines, du début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre. Ensuite, dernière phase du programme, cette fois-ci, ce sera un concours. Un concours qui va être organisé à l'échelle du continent tout entier.
En anglais, en français ?
En anglais, en français, en arabe, enfin c'est en portugais également. Et donc là, on va appeler tous ceux qui le veulent à présenter des projets innovants dans le domaine des médias. Je mets quand même l'accent sur le fait que ce type de concours a déjà eu lieu il y a 3 ans. Le niveau est extraordinairement élevé. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de formation, etc. C'est que vraiment, on veut amener des gens à ce concours qui soient bien préparés, qui soient vraiment au niveau. Et au terme de ce concours, les 20 lauréats, il y aura une vingtaine de lauréats, se partageront une bourse $1 million pour développer leur projet et bénéficieront pendant plusieurs mois de l'accompagnement de mentors pour les aider à développer leur projet innovant dans le domaine des médias.
Et on a bien compris que chacun des éléments de ce dispositif, donc les hackathons, la formation à distance avec les MOOC et le concours, chacun de ces éléments peut fonctionner de manière totalement autonome.
On peut participer qu'à l'un ou à l'autre, etc. Mais on a essayé de produire et de proposer quelque chose de cohérent pour vraiment faire quand on arrive avec des projets vraiment de qualité au moment du concours.
Pour illustrer un petit peu donc le fonctionnement, on va reparler de cet hackathon qui s'est tenu à Abidjan. C'était il y a quelques jours, au mois d'avril. Il y a eu une quarantaine de participants, c'est ça?
On a été assez surpris par l'engouement. On ne s'y attendait pas. On a lancé vraiment au tout dernier moment les inscriptions et en l'espace de quelques heures, on a eu plus de 120 personnes qui se sont inscrites pour participer. On a dû faire une sélection complémentaire parce qu'on n'avait pas prévu de répondre à autant de personnes. Finalement, on a retenu une quarantaine de personnes qui se sont constituées en 7 équipes différentes. Et ces 7 équipes ont planché tout le week-end pendant 48 heures pour proposer des applications innovantes dans le domaine de l'information.
Bonjour Isabelle Christiane.
Bonjour.
Tu étais présente, toi, lors du hackathon d'Abidjan, c'est ça?
Oui, j'étais présente.
Et tu pitchais, c'est-à-dire que tu étais en fait la porte-parole d'un projet, d'une équipe qui a pour nom CI 50 secondes, et c'est ton projet, votre projet, qui a gagné. Bravo.
Merci.
Donc CI 50 sec, qu'est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit?
C'est une application qu'on a mise en place pour pouvoir diffuser les informations, l'actualité en langue locale via un appel vocal. En maximum 50 secondes. Donc cette application a été mise en place en grande partie pour les personnes qui ne parlent ni le français et qui ne savent aussi écrire. Donc c'était pour permettre à ces personnes qui sont dans les zones reculées d'accéder à l'information de façon plus aisée. Parce qu'en français, c'est un peu difficile pour ces personnes qui n'ont pas été à l'école.
Et donc les personnes qui veulent utiliser cette application, quand ça sera mis en place, si c'est mis en place, il suffira qu'elles téléphonent à un numéro, elles auront des informations pendant 50 secondes dans une langue qu'elles comprennent, c'est ça?
Oui, exactement, c'est ça.
Pourquoi avoir participé à ce hackathon, toi personnellement?
C'était une manière pour moi aussi de découvrir un autre monde, parce que moi je suis de l'audiovisuel, donc c'était aussi une manière d'apporter ma touche au développement, à l'innovation dans les médias. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas vraiment d'innovation et il y a des projets qui sont mis en place juste pour le faire. Alors, il fallait jouer aussi ma partition dans cette innovation-là.
Alors, je demande à Philippe de boucher ses oreilles. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement?
C'était bien. Au début, j'étais un peu sceptique. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Et puis après, au fil des jours, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je me disais même que j'allais devenir développeuse d'applications parce que c'était vraiment passionnant. Et je pense que c'est une expérience à refaire.
Tu as entendu ce que nous a expliqué Philippe sur l'ensemble du dispositif donc d'innovation média sur le continent africain. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est déjà à louer que permettre à tous ces jeunes de pouvoir faire montre de leur talent, c'est vraiment une belle initiative. Et puis, c'est pas tous les jours que les jeunes ont la possibilité de faire valoir ce qu'ils savent faire et de montrer aux autorités qu'il y a des besoins dans ce domaine, il y a des besoins ici, et nous, jeunes, nous pouvons faire valoir ce talent.
Les jeunes et les moins jeunes, hein, Philippe, ce projet s'adresse pas à une tranche d'âge particulière, si?
Non, ça s'adresse pas à une tranche d'âge particulière, mais on sait que a priori, plutôt ceux qui vont répondre sont plutôt parmi les plus jeunes. Moi, j'aurais une question pour Isabelle. J'ai l'impression que ce hackathon, particulièrement pour cette équipe à laquelle tu participais, ça a été une espèce de contraction du temps. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en quelques heures, comme ça, en 48 heures. C'était technologique, c'était des médias, mais c'était aussi humain. Il s'est passé des choses dans l'équipe.
Bon, là, c'était aussi une autre expérience qui m'a fait vraiment plaisir parce que chacun de nous avait une qualité particulière, avait une expérience particulière. Et là, il fallait se retrouver à 6 pour mettre ensemble toutes nos connaissances. Donc, à un moment donné, ça se titillait, chacun apportait son idée, chacun voulait que son idée soit l'idée l'idée retenue pour l'application. Et il y a eu même, on s'est disputé par moment, mais au finish, nous avons compris que pour qu'une bonne idée émerge, il faut des contrastes, en fait. Si tout le monde a la même idée, on ne peut pas sortir quelque chose de bon. Donc, c'est aussi cette ambiance qui a régné dans notre groupe. Mais ce qui nous a permis aussi de vite avancer, c'est que nous avions chacun se concentrer sur ce qu'il sait faire. Donc nous avons pu avancer rapidement dans ce sens-là.
C'est-à-dire ce qu'il sait faire? C'est-à-dire ceux qui le savent. C'était quoi les...
Par exemple, je m'explique. Moi, par exemple, je suis de l'audiovisuel. Donc, quand il s'agissait de monter les voix que nous avons enregistrées pour notre application, moi, je devais le faire et j'étais consacrée à ça. Il y avait une personne qui était consacrée au développement de l'interface web, donc il se concentrait à ça. Donc, je donnais, par exemple, une heure, on se dit, bon, on a cinq minutes, nous tous, on se retrouve et que chacun, on voit ce qu'il a pu faire. Et c'est comme ça qu'on avançait au fur et à mesure. Donc, on avait des tâches bien précises, définies pour chaque personne.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
RFI.
Une question à toi, Philippe. Qu'est-ce qui a distingué ce projet, donc CI50SEC, des autres pour qu'il soit le lauréat?
On avait pour juger et évaluer les projets quatre critères, et ça sera la même chose dans l'ensemble du processus et des prochains marathons d'innovation média. Premier critère, l'originalité. Est-ce que le service est original ou c'est une simple copie de quelque chose qui existe déjà? Deuxièmement, est-ce que il améliore la qualité de l'information disponible pour le public cible, par exemple? Ensuite, est-ce que je vais me souvenir des quatre critères? Ça, c'est...
Je suis sûr que tu vas te souvenir.
C'est la grande question. Il y avait le critère d'utilité. Oui, Isabelle va m'aider. Il y avait le critère d'utilité. Est-ce que l'application est utile? Et puis enfin, il y avait un critère de design. Est-ce qu'elle est facile à utiliser ou est-ce que c'est une usine à gaz à laquelle on comprend pas grand chose? Donc, ces quatre critères nous ont permis de classer, en quelque sorte, les projets. Et très, de manière assez, assez nette, ce projet-là s'est distingué.
Dernière question à toi, Philippe, à toi aussi, Isabelle. Est-ce que le risque de ce genre d'initiative n'est pas de favoriser le contenant, alors que la chose importante peut-être dans le journalisme, c'est le contenu?
Oui, c'est clair, mais il faut des risques, quoi. Dans la vie, qui ne risque à rien. Le contenu, il est toujours important. Il ne s'agit pas de faire une application pour la faire, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on décide de mettre dans cette application. Est-ce que ce qu'on décide de mettre dans l'application sera utile pour ceux qui vont l'utiliser? Donc, je pense que c'est... Il n'y a pas de souci à se faire, quoi.
Philippe, moi je crois que les deux problématiques sont très profondément liées. Si on fait un contenu qui n'est consulté par personne, on a un problème. Si on a fait une application dans laquelle il n'y a pas de contenu intéressant, on a un problème aussi. Donc les choses sont très intriquées et difficiles à distinguer l'une de l'autre. Je voudrais signaler quand même que parmi les projets qui sont sortis de ce hackathon, il y en avait un qui consistait à mettre en place un site qui permettrait de suivre la réalisation des appels d'offres publics dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a une reconstruction assez intense en ce moment, et beaucoup d'appels d'offres publics. Et donc la proposition des jeunes qui étaient là, c'est de faire un site qui permette de suivre à qui sont attribués les appels d'offres, est-ce que les temps de réalisation sont respectés, est-ce que au bout du compte on a bien la réalisation qui était promise avec tous ces dispositifs. Et je pense que là on est clairement dans le contenu, on est clairement dans une forme de contrôle démocratique aussi de l'exercice de la puissance publique et de l'utilisation des deniers publics. Donc je pense qu'on est aussi dans le contenu. Donc il peut y avoir absolument tous les genres dans ce type de marathon d'innovation média.
Isabelle, le mot de la fin pour toi, que va devenir votre projet CI50SEC?
Mais nous allons déjà continuer à travailler sur le projet, parce qu'il y avait aussi des imperfections. En deux jours, c'est pas toujours évident de faire un travail parfait, sans tâche. Donc nous allons continuer de nous retrouver pour travailler sur ce projet d'après ce que nous avons décidé ensemble, et nous allons essayer de le mettre en place.
Merci Isabelle, merci Philippe. Pour plus d'informations sur ces projets, vous trouverez bien entendu des liens sur l'Atelier des médias. Et pour les nouveautés, le lancement du MOOC, etc., il suffit de suivre le compte Twitter, le compte Facebook de l'Atelier des médias, ou ton compte à toi, ou celui de CFI sur Twitter, qui est CFI Média.
Et il y a un hashtag, un mot dièse, Afrique Innovation, en un seul mot, tout collé, Afrique Innovation. Et vous pouvez, en suivant ce mot dièse, ce mot-clé, avoir toutes les infos et même retrouver toutes les photos de cet événement d'Abidjan, etc. Et vous verrez que c'était vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Donc on attend beaucoup de monde aussi pour les prochains.
Merci. Courte pause dans l'Atelier des médias, on se retrouve dans un instant. À Atelier des médias sur RFI. Merci de nous rejoindre. Vous le savez certainement, votre vie en ligne est traquée par toutes sortes d'acteurs, d'outils qui cherchent à en savoir plus sur vous. Quelles sont leurs méthodes, leurs intentions, leurs motivations? Les réponses avec nos trois invités, co-auteurs ou coproducteurs de la web-série Do Not Track.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
On a tous nos petites manies. On a tous notre routine quotidienne.
Mine is to wake up, get caffeine, go on.
Egal ob mit dem Computer oder dem Handy, jeden Morgen gebe ich unzählige Gigabytes privatester Informationen über mich preis, ohne gefragt worden zu sein.
Ça c'est mon nom. Ça c'est mon adresse. Ça c'est mon compte Twitter. Et ça, ce sont mes photos Instagram. Tout ça, je le partage déjà. Ça fait partie de ma routine quotidienne, pour ne pas dire de mon addiction. Il y a beaucoup de choses que je partage sans le savoir, sans le vouloir, et vous aussi. Par exemple, je sais où vous habitez. Je sais que c'est une belle journée. Je sais que vous utilisez un PC. Tout ça, je le sais simplement parce que vous consultez ce site en ce moment. Et au fil des heures, c'est un portrait beaucoup plus détaillé de vous qui se précise.
Allez, c'est parti pour la journée.
Une des premières choses que je fais en me levant, c'est prendre des nouvelles du monde. Et vous, vous allez sur quel site pour vous informer?
RFI.
Traquons les traqueurs, c'est le défi que lance une web-série mise en ligne il y a quelques jours par Arte, l'Office National du Film Canadien et la maison de production Upian notamment. Il s'agit d'un dispositif réunissant 7 films courts et interactifs diffusés toutes les 2 semaines jusqu'en juin. Le projet a pour nom Do Not Track, ne traquez pas, ne nous traquez pas. Il est innovant puisque pour nous expliquer comment nous sommes suivis, traqués à des fins surtout commerciales, ses créateurs nous montrent la manière dont ils nous traquent eux-mêmes. Innovant et pertinent aussi, car Do Not Track a choisi de s'attaquer à un sujet complexe, mais dont la compréhension est essentielle, vitale dans notre monde connecté. Le traçage par des centaines, des milliers de services de notre activité, de notre vie en ligne. Nous sommes aujourd'hui avec plusieurs des créateurs de Do Not Track, plus particulièrement de la partie française de ce projet international et multilingue. Bonjour Vincent Glade.
Bonjour.
Tu es journaliste indépendant, tu as travaillé pour Canal+, ou Slate.fr. Tu es un des auteurs de la série Do Not Track et le narrateur de la version française. Tu peux nous en dire plus sur ce projet?
Bah, c'est un projet, comme vous avez vu, international, puisqu'on a entendu ma voix doublée, je crois, en allemand et en anglais. Donc c'est une sorte de gros web documentaire interactif. Donc le principe est, en gros, on sait qu'on est espionné sur Internet, tout le monde en a un peu conscience, mais on voit pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, en quoi c'est dangereux. Donc le but, c'est via une narration assez classique de documentaire, de vous montrer un moment, vous mettre en gros vos données dans la gueule, si vous permettez l'expression. Par exemple, vous m'entendrez dire, vous êtes en ce moment dans telle ville, il fait tel temps dans cette ville-là, et ça on le sait juste avec votre connexion Internet. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment il n'y a pas qu'une surveillance électronique par les États, par la NSA, il y a aussi une surveillance privée, qui est encore moins connue, qui fait l'objet d'encore moins de débats publics, qui est cette surveillance très silencieuse du tracking sur Internet.
Comment elle opère, cette surveillance, justement ?
Il y a plein de méthodes. La plus classique, c'est les cookies, c'est-à-dire vous connectez sur un site d'information, par exemple lemonde.fr, et puis on va vous bombarder de 40, 50 cookies, qui sont en fait des petits fichiers informatiques qui sont censés vous suivre, qui sont implémentés donc par le site que vous visitez, qui ensuite vont rester sur votre ordinateur pour vous suivre et pour créer une sorte d'historique de navigation qui est censé donner un peu votre profil de consommateur.
Et ce qui est difficile avec les cookies, c'est que c'est également pratique, c'est censé aussi faciliter la navigation.
Voilà, il y a un peu nous, ce qu'on explique, c'est il y a les bons et les mauvais cookies. Effectivement, le bon cookies, c'est celui qui vous permet de pas avoir à retaper tout le temps votre nom pour rouvrir votre session, qui permet de garder votre session active. Quand vous cliquez sur une autre page, on sait encore qui vous êtes. Mais il y a aussi les mauvais cookies qui sont pas déposés par le site que vous visitez, mais par d'autres gens que vous ne connaissez pas du tout, qui sont des régies publicitaires et qui eux sont un peu collants, ces cookies, qui vont vous suivre de site en site. Et quand vous verrez une pub s'afficher sur un autre site d'information que vous visiterez ensuite, vous le verrez pas parce que ça va se passer très vite, mais ça sera en fait une mise aux enchères très très rapide de votre profil de consommateur. La régie va vendre votre profil de consommateur à plein de marques, et le plus offrant, en fonction de votre profil de consommateur, le plus offrant obtiendra la publicité. Donc c'est un processus qui est totalement invisible, mais qui, si on vous l'explique, fait quand même très très peur, quoi.
Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, dans ce projet?
C'est le fait, notamment, que moi je suis conscient de tout ça, Et pour autant, j'ai un compte Facebook, je mets plein de photos sur Instagram, je navigue sur Internet avec des cookies. Et pour tout dire, je m'en fous. Mais c'est que, voilà, on sait qu'il y a des risques, mais on n'a pas encore les exemples précis de ce que ça va nous causer, en fait. C'est une menace potentielle. Et c'est en ce sens que c'est assez fascinant. Donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est de montrer en quoi de rendre un peu plus réel, plus tangible cette menace potentielle. Parce qu'un jour, on va se réveiller, il sera beaucoup trop tard. Des entreprises comme Facebook, comme Google, des régies publicitaires inconnues auront beaucoup trop d'informations sur nous et ils pourront, par exemple, faire le prix de notre assurance pourrait être corrélé à notre historique de navigation, des choses comme ça. Et ça, avant que ça arrive, il y a une solution, ça serait que les gens se rendent compte du problème et que surtout le législateur prenne des décisions là-dessus. Mais là, on a une loi qui est votée sur le renseignement pour encadrer la surveillance par les États. Mais pour l'instant, en France, on n'a rien qui encadre, ou très peu, qui encadre cette surveillance privée, totalement opaque, qui n'est même pas fait par des acteurs étatiques, mais par des acteurs dont le seul intérêt est le profit. Donc en soi, c'est quand même assez inquiétant. Et voilà. Ce qui est fascinant dans ce débat, c'est que tout le monde le sait un petit peu, mais on n'arrive pas à aller plus loin et à prendre vraiment conscience et à se remonter les manches, quoi.
On va écouter, Vincent, un extrait du deuxième épisode de Do Not Track. Je précise que la série est imaginée et réalisée par Brett Gellor, qui est connu pour avoir signé un des films cultes de la cyberculture, qui est RIP Remix Manifesto, donc le deuxième épisode qui est consacré à la publicité.
Sur le web, on dit OK à tout, mais on ne sait jamais trop à quoi. Depuis quelques mois, vous avez dû voir ces messages qui spamment nos écrans. C'est le résultat d'une directive européenne. Dans chacun des pays qui l'ont adoptée, tous les sites doivent demander aux internautes s'ils acceptent de recevoir des cookies, ces petits fichiers envoyés sur nos navigateurs web. La directive européenne vise les cookies posés par les régies publicitaires qui nous suivent de site en site pour définir notre profil de consommateur. Vous n'avez pas envie d'être traqué ? Eh bien, pas de chance, vous ne pouvez pas dire non. Il y a toujours un OK, mais jamais, jamais de non. Ça donnerait quoi si on pouvait répondre ? Non, laisse-moi tranquille, je n'en veux pas de tes cookies tout pourris.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
On comprend bien avec l'extrait que vous essayez d'être extrêmement didactique et en plus d'expliquer quelque chose d'assez complexe.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On espère qu'effectivement, ces sujets qui sont quand même connus surtout des geeks, entre guillemets, puissent être connus un peu plus largement. Il y a beaucoup de techniques, mais finalement, c'est assez simple. On est tout le temps espionné, quoi qu'on fasse sur Internet, par des gens qui derrière veulent faire de l'argent là-dessus. Et en même temps, on est un peu coupable de tout ça, puisque c'est grâce à cet espionnage qu'on ne paye pas Google, qu'on ne paye pas Facebook, que tous ces services extraordinaires sont gratuits. Donc au fond, on est tous un peu ravis que ça soit gratuit. Donc on est aussi un peu coupable, mais nous, on essaye de que les gens prennent conscience du fait que c'est aussi eux qui sont coupables de leur passivité face à tout ça.
Et d'ailleurs, dans tous les épisodes, il y a une part interactive. Dans le premier, vous demandez donc à la personne qui est en train de regarder la série sur quel site elle s'informe ou sur quel site elle regarde des choses pour se détendre. Dans ce deuxième épisode, vous demandez combien seraient prêtes à mettre les personnes pour payer un service comme Google ou Facebook.
Voilà, c'est ça. Donc si par exemple je réponds Google, je suis prêt à aller, on va dire, à mettre 10 euros par an, non, ça suffit pas, puisque Google se fait 50 euros par personne, donc on peut estimer qu'il faudrait, si ça devait être payant, ça serait au moins 50 euros. Et on voit bien que si on devait payer chaque service ce genre de prix, évidemment qu'on serait pas d'accord. Donc voilà, cette surveillance, elle est assez horrible pour nous, mais elle nous permet en même temps. C'est tout le problème, c'est ce qui nous a rendu dépendants à elle. Elle nous permet d'avoir tous ces services magnifiques gratuits.
Et du coup, au-delà de la surveillance, au-delà du fait qu'on est suivi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution ? On va pas payer tous les services. Est-ce que vous apportez des solutions, vous apportez des préconisations, ou simplement vous souhaitez dire aux gens, voilà, ça se passe comme ça, libre à vous de choisir ce que vous faites, de le comprendre au moins.
Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était porter le constat, c'est-à-dire que les gens puissent se rendre compte du problème et qu'au moins ça porte le débat dans l'espace public. Puisque moi je pense notamment que c'est surtout un problème de régulation. Aux États-Unis, par exemple, la FCC, qui s'occupe de l'agence de régulation des communications, ils ont fait des rapports très fouillés sur ce qu'on appelle les data brokers. Data brokers, c'est les gens qui rachètent toutes les données éparses de Facebook, des cookies et tout ça, qui après vont les vendre par pack à des annonceurs. En France, on connaît même pas le mot. Les députés, je pense qu'ils connaissent pas du tout ces entreprises. Donc avant même de pouvoir les réguler, il faut déjà qu'on puisse les connaître et connaître tout ce truc. Donc moi je pense qu'il y a... C'est à la loi de simplement de mettre des bornes. Et la loi, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous ennuie juste avec ces histoires de petits bandeaux qui nous disent est-ce que vous voulez accepter les cookies sur les sites internet ? Ce que vous voyez depuis 6 à 8 mois sur Internet.
Quand on vit en Europe, au moins.
Voilà, quand on vit en Europe, au moins. Et donc ça, c'est une directive européenne de 2011 qui dit effectivement, les cookies, c'est pas top. Alors, on va dire aux gens qu'ils en ont. Donc, du coup, on sait qu'on a des cookies, mais on peut même pas les enlever, puisqu'à chaque fois, ce que je disais dans l'extrait, on vous dit, est-ce que vous acceptez d'avoir des cookies sur votre ordinateur? Vous pouvez répondre que oui. Ou alors en savoir plus. Mais vous pouvez pas répondre non. Donc voilà, la régulation est quand même extrêmement faible. Si c'est juste nous informer qu'il y a un problème et ne pas tenter de le résoudre, il y a un problème, quoi.
Bonjour Zineb Drieff.
Bonjour.
Tu es journaliste indépendante, tu as longtemps travaillé pour Rue 89. Tu fais partie des auteurs, des co-auteurs de Do Not Track. Un mot sur ta vision de ce projet.
Alors ce projet, c'est d'abord un projet très pédagogique. Moi, contrairement à Vincent, je suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc je suis arrivée avec des notions en fait sur le tracking et j'ai travaillé sur le mobile. Sur le mobile, mon enquête, elle a été simple, ça a été d'utiliser le mien pour essayer de comprendre comment j'étais traquée. Du coup, j'ai appris plein de choses. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est que, en tout cas sur le mobile, c'est l'objet qu'on utilise tous les jours. Moi, je suis complètement accro à mon mobile, je suis pas la seule. C'est le premier objet qu'on manipule au réveil et on sait absolument pas comment ça fonctionne. Alors que on télécharge tout un tas de choses. Sur Android, on sait, on est prévenu des données qu'on transmet.
Donc Android, mais... c'est le système d'exploitation mobile de Google, par opposition en général à l'iOS, qui est donc celui d'Apple.
Pour les applications, je prends un exemple tout bête, vous téléchargez une application, on vous dit quelles données vont être traquées, vous répondez oui en général, parce que, un, vous savez pas ce que ça implique, en fait, qu'on exploite vos données, par qui, comment... Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'intéresse.
On va écouter un extrait de l'épisode 4 de Do Not Track. C'est une version de travail puisqu'il sera diffusé le 12 mai dans le cadre de la série. Tu es le personnage principal, Zineb. Le sujet, c'est donc, on l'a bien compris, le mobile, le téléphone.
Mon mobile est l'un des objets les plus personnels que je possède. Jusque-là, j'avais l'impression que mon code secret suffisait à le protéger. Je n'ai pas envie de le voir tomber entre les mains d'un étranger, ni même d'un proche en réalité. Il contient mes photos, mes mails, mes textos, mes rendez-vous, mon répertoire et une recette secrète de soupe à l'oseille. Si quelqu'un parvient à récupérer 4 de vos données de géolocalisation, dans 90% des cas, il peut vous identifier. Mon téléphone portable et le vôtre seront différents, puisque nos usages sont complètement différents. Il n'y a que moi qui me rends tous les jours chez moi, au travail et par exemple au café en bas de chez moi. Donc même si ces données sont considérées anonymes, en fait, rien de cela n'est réellement anonyme. Nous avons tous des applications que nous utilisons régulièrement. Pendant combien de temps sommes-nous liés à ces choses? Le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone par rapport au nombre d'applications que vous avez sur le vôtre, ça aussi, ça laisse une trace. Si votre ville est constamment sous vidéosurveillance et si des capteurs vous traquent quand vous vous déplacez avec votre téléphone portable, seriez-vous plus ou moins tenté de participer à une manifestation? Seriez-vous plus ou moins tenté de descendre dans la rue et faire entendre votre voix à l'encontre de votre gouvernement?
C'était un extrait de l'épisode 4 de Do Not Track, un épisode que tu as signé, Zineb. Est-ce que tu agis différemment maintenant? Est-ce que tu as changé des choses? Tu expliquais il y a quelques instants que tu n'étais pas spécialiste, que tu connaissais ces sujets de loin. Tu t'es plongé dans le mobile. Qu'est-ce que tu en ressors comment?
J'en ressors en n'ayant pas forcément changé grand-chose, si ce n'est que je lis de façon beaucoup plus systématique les conditions générales d'utilisation. J'utilise de façon beaucoup moins... désinvolte le wifi gratuit parce que je sais que ça a des implications qu'on découvre dans l'épisode.
Donc le wifi gratuit quand on arrive quelque part et que le wifi est accessible gratuitement.
Voilà, en général vaut mieux lire les conditions générales d'utilisation pour essayer de comprendre. Je suis pas du tout et d'ailleurs la série entière est pas du tout dans la diabolisation en fait du tracking mais dans l'explication, mais c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, on porte un regard différent sur tous les services gratuits qui nous sont offerts, simplement parce que c'est nos données personnelles qui alimentent le modèle économique du web et qui vont enrichir des grands groupes qui les exploitent de façon permanente.
Bonjour Greg Trowbridge.
Bonjour.
Tu es producteur chez Upian, la société de production qui a lancé le projet et une des entreprises qu'il porte. Comment vous est venue l'idée, l'envie de vous lancer dans cette aventure?
Nous, ça faisait à peu près 10 ans qu'on faisait des programmes documentaires en ligne, c'est-à-dire toujours des programmes construit avec et pour le web et diffusé sur le web, mais on n'avait jamais parlé de ce support qu'on utilise tous les jours qui est l'internet.
Ouais.
Et le projet est quand même né dans la tête de Brett Gaylor, donc le fameux réalisateur de Ripper,
Remix Manifesto.
Il avait cette envie de parler de l'économie du web, de parler de ce qui est en train de se passer. On a vu le web évoluer et se transformer pour devenir quelque chose où l'économie a complètement changé et on a cette économie de la gratuité qui ne fonctionne que parce que nos données sont enregistrées et traquées. En fait, tout est lié. On va beaucoup parler des lois de renseignement en France. On a vu l'affaire Snowden.
Et d'ailleurs, merci d'aborder ce sujet. Quand le ministre de l'Intérieur français défend son projet de loi, il dit, regardez comment Google, Facebook, etc. collectent des données sur vous. Pourquoi est-ce que l'État français ne pourrait pas faire de même? Donc il se défend en indexant les pratiques que vous expliquez dans ce web documentaire ou dans ce dispositif multimédia.
Mais ce sont les deux faces d'une même pièce, en fait. Ce qu'a montré Snowden, c'est que si les États arrivent à surveiller les citoyens aussi bien, c'est parce qu'ils ont accès aux données des entreprises privées. Toutes ces données, c'est bien gentil, mais où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène au big data.
Le big data, c'est la masse immense de données qui permet, quand on a des algorithmes un peu intelligents, un peu astucieux, de sortir toutes sortes d'informations, d'anticiper toutes sortes de choses qui parfois n'ont même rien à voir avec les données qu'on a collectées.
Tout à fait, avec cette vraie question qu'il faut se poser par rapport au big data, c'est comment est-ce qu'on interprète? Qui les interprète? De quelle manière? Parce que c'est jamais anodin. Et le big data nous emmène aussi à ce qui est l'évolution de l'internet, qui est cette personnalisation constante. Quand on va sur un site de médias ou un site de vidéo bien connu, on a toujours des contenus qu'on nous propose parce qu'on considère qu'ils vont nous intéresser. Et cette personnalisation, elle a un impact qui n'est pas simplement un impact personnel. C'est un impact sur la façon dont on va comprendre notre société demain. C'est-à-dire que on est enfermé dans une bulle de filtre qui va faire en sorte qu'on ne voit plus, on n'est plus confronté à des idées contraires.
Une bulle de filtre, c'est un concept qui a été développé justement pour expliquer ça, c'est-à-dire que chacun a l'impression de naviguer sur le même internet, mais il y a tellement de choses qui vont être personnalisées parce qu'on vous connaît que finalement c'est comme si on évoluait tous dans des mondes différents en même temps, sans s'en rendre compte, sans pouvoir le savoir même, c'est ça?
Mais c'est vraiment ça, il y a ce truc qui est assez fascinant, c'est qu'on a tous l'impression quand on va sur internet, on a accès à des masses de données, et en fait on est tous enfermés dans un coin et on voit pas automatiquement ce que va voir son prochain.
Ce qui est compliqué, c'est que vous avez choisi donc d'expliquer ces phénomènes, donc le do not track, ne nous traquez pas, on vous parlait des trackers, donc de tous ces systèmes, on l'a peut-être pas assez expliqué, donc qui permettent de suivre les individus quand ils naviguent en ligne. Vous ne voulez pas en revanche diaboliser et vous laissez finalement la personne qui a compris un peu comment ça se passe face à elle. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'arrivée? Qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'arrivée à part faire prendre conscience?
Mais déjà, la prise de conscience, c'est une bonne chose. Et après, on est dans un débat de société qu'on pourrait comparer au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont des choix personnels qu'il va falloir faire, mais il y a des choix politiques qui doivent être faits aussi. Et il y a aussi, finalement, des choix technologiques. Changer d'énergie, c'est un choix de société globale. Ben, reprendre le contrôle de nos données, c'est un choix qui va passer par des choix politiques et des choix citoyens. C'est de décider de dire que ces entreprises-là n'ont pas à accumuler nos données sans qu'on ait un moyen de contrôle dessus.
Vous avez mis en place un dispositif assez complexe autour de ce projet. D'abord, il est multilingue, en quatre langues, y compris le québécois, c'est-à-dire que la version des Canadiens francophones n'est pas la même que la version des Français. Il y a aussi de l'allemand et de l'anglais. Il y a un accès, on l'a compris, personnalisé, c'est-à-dire que chaque épisode, il y a un moment où il va donner des informations ou collecter des informations sur nous et les diffuser comme à l'intérieur du film. J'imagine que ça n'a pas été simple de mettre tout ça en place. Et en plus, vous avez choisi un mode de série. C'est-à-dire que vous diffusez un épisode toutes les deux semaines. Pourquoi tout ce dispositif?
Pourquoi est-ce que, par exemple, on raconte avec des interactions? L'objectif ici, c'est d'impliquer le spectateur. À partir du moment où je te dis, quand tu vas aller sur un site de médias, il va y avoir plein de trackers, c'est formidable. Mais si je te demande où est-ce que tu vas voir des news, et que là tu rentres ton site de news et je te montre en direct les trackers qui sont présents sur le site de news que tu consultes habituellement.
Et sur un grand site de news, pour avoir fait l'expérience, c'est une centaine de services qui récoltent vos informations de navigation, là où vous êtes, etc. Et qui du coup peuvent recouper avec d'autres informations, où vous étiez avant, qu'est-ce qui vous a intéressé avant, etc.
Oui, ça peut arriver. Et ce qu'on fait dans la démonstration de ce premier épisode, par exemple, c'est que tu peux rentrer donc un site de news et un site où tu vas pour te détendre. Et pour certaines personnes, il y aura 50 trackers d'un côté, 50 trackers de l'autre. Mais pour d'autres, il y aura peut-être 3 trackers d'un côté et 3 trackers de l'autre. Mais il suffit qu'il y en ait un en commun. Et c'est ça qu'on cherche à montrer sur ce tracking-là, c'est que s'il y en a un en commun, ben voilà, on sait d'où tu viens, on sait où tu vas et on va continuer à te suivre. Et cette démonstration-là, comme c'est toi qui as rentré ces sites-là, ben tu es beaucoup plus impliqué. Et on espère que tu vas beaucoup mieux le comprendre.
Vincent, je précise que tu es à Berlin, hein, parce que tu vis désormais entre Berlin et Paris. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Pascal Thibault qui gère le bureau de RFI à Berlin. C'est un hasard si le projet a été mis en ligne, donc puisque c'est un projet qui a nécessité 2 ans de travail, qui a été mis en ligne au moment où en France on discutait un projet de loi renseignement, où là il s'agit de la surveillance des États, mais c'est un petit peu la même logique, Vincent?
Oui, c'est un pur hasard, parce que je crois que c'est depuis un an et demi que c'est dans les tuyaux de notre track, donc on n'avait pas prévu spécialement qu'il y aurait cette loi renseignement après des attentats à Paris. Mais oui, pour moi en fait c'est vraiment le volet privé en fait de la surveillance des États, le tracking. Et on peut à vrai dire se demander quel est le plus dangereux, parce que alors certes l'espionnage des États il est totalement flippant et la loi renseignement elle est pas vraiment rassurante, mais au moins il y a un débat public sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a quand même tout le monde peut regarder sur le site de l'Assemblée nationale des débats qui ont lieu sur le sujet, et voilà
c'est encore un projet, hein, précisons.
C'est d'ailleurs de toute façon encore un projet. Lui, le tracking, il est totalement opaque. Il y a eu quelques régulations à Bruxelles, donc là c'est plus difficile de suivre le débat. Mais on n'a jamais eu de débat à l'Assemblée, il me semble, où on se dit tiens, est-ce que un data broker, donc quelqu'un qui achète des données pour les revendre, a le droit de faire ça, ça, ça et ça? Ça on sait pas. Donc est-ce que Google a le droit de revendre par exemple mes données à un assureur, des choses comme ça? On sait pas. Donc c'est pour ça que c'est presque plus dangereux, parce que y a aucune régulation pour le coup.
Et à tes yeux, si les consommateurs ne prennent pas conscience de ce qu'est le tracking, quels sont les risques, vers quoi on évolue?
On évolue vers un monde où ça sera toujours ceux qui ont les comportements les plus sains entre guillemets qui seront les plus avantagés, puisque donc la loi terrorisme, ce qu'elle fait, c'est la loi renseignement, c'est qu'elle va essayer d'isoler les mauvais comportements pour leur faire une réponse pénale assez violente. Le tracking sur internet s'intéresse à vraiment tout le monde et va avantager certains, ceux qui auront un comportement jugé plus sain. Par exemple, des assureurs commencent à récompenser avec des primes d'assurance moins chères ceux qui utilisent un bracelet connecté. C'est-à-dire ceux qui vont marcher plus dans la journée paieront moins d'assurance. Et donc, si on avantage des profils comme ça, d'ailleurs, ce sont souvent les geeks, donc ils ont plutôt tendance à
et des gens fortunés, parce qu'un bracelet connecté, ça coûte pratiquement 100 €, donc c'est vraiment pas accessible à tout le monde.
Voilà. Et donc, si on avantage certains, c'est parce que du coup, on va faire payer plus cher d'autres, qui eux correspondront moins aux critères qu'on aura rentrés dans les algorithmes, parce qu'on aura moins marché, on paiera plus son assurance, des choses comme ça.
Autre question, l'inverse, finalement, si cette pratique devenait justement illégale, à quoi ça ressemblerait le web? Est-ce que on perdrait pas également si tout simplement Google ne nous connaît pas assez pour nous donner les informations qu'on cherche?
Oui, non mais alors, attendez, le truc c'est pas d'interdire le tracking, évidemment, ça serait d'avoir des bornes en fait. Tout simplement, ce qu'on demande, c'est, comme dans toute régulation, on autorise un petit peu et on limite un peu. C'est exactement ça le problème. C'est juste que quand tout est autorisé, quand il semble y avoir quasiment aucune régulation, parce que ces entreprises sont tellement puissantes par rapport aux États et tellement en avance technologiquement, là il y a un vrai risque, quoi. Et on sent bien qu'on pourrait avoir un jour une sorte de Fukushima des données ou de quelque chose comme ça, ou qui nous échappe, où les choses auront totalement échappé.
Zineb.
Sur la collecte de nos données, il peut y en avoir une utilisation extrêmement vertueuse, extrêmement utile pour le monde médical, dans l'industrie, en économie d'énergie. Le problème, c'est vraiment tout le temps l'exploitation qui en est faite. Et c'est le point commun qu'on va avoir entre l'industrie du tracking et la loi sur le renseignement. C'est qu'au final, c'est pas tant le contenu de vos textos, de vos photos qui intéresse, c'est en réalité les liens que ça dessine.
Ce qu'on appelle les métadonnées, en fait.
C'est ça, c'est les métadonnées.
Les informations sur les informations.
Voilà. Et en fait, l'ennui avec ça, c'est que ça va dessiner un portrait de vous, de vos fréquentations, de qui en fait va se fonder sur la prédiction. On va essayer de prédire votre comportement d'acheteur dans le cas de l'industrie du tracking, de terroriste, de je sais pas quoi dans le cadre de la loi sur le renseignement. Et c'est ça qui pose la question de mais on veut vivre dans quelle société? Parce que dans le fond, si je transmets pas ces données, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de suspect? Si je planque mes données, si je crypte mes données, ça fait de moi quelqu'un de suspect? Et donc ça pose une question qui va un peu au-delà de mes données personnelles à moi sur mon portable, et c'est une question qui est majeure aujourd'hui.
Greg.
Et c'est pour ça que le débat est intéressant aujourd'hui, particulièrement parce que demain, si quelqu'un est complètement invisible sur Internet, est-ce qu'il arrivera à vivre? Est-ce qu'il arrivera à trouver une assurance? Est-ce qu'il arrivera à trouver un travail? Donc c'est vraiment un débat qu'on doit lancer, et on doit s'interroger sur la société qu'on veut créer ensemble.
Merci à tous les trois. On trouvera sur l'atelier des médias, bien entendu, des informations complémentaires. Le lien vers Do Not Track, tu peux peut-être le rappeler, Greg?
Alors, c'est donottrack-doc.com, mais donottrackdoc.com fonctionne aussi.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 380 de l'Atelier des médias, proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci à Pascal Thibault à Berlin pour la connexion et l'interview de Vincent Glade. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter, Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org, arablog.org. Notre podcast est disponible sur toutes les applications dédiées. Nos sujets sont en version longue sur SoundCloud. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais,
les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.